Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures de détente informative pour vous d'un pugilat cruel et fratricide pour eux. Trop longtemps, avouons-le, les journalistes de la rédaction n'ont pas tourné une paille à l'envers, consacrant leurs après-midi soit à écluser des picombières au balto en face d'Europe 1...
Ah, on s'est pas trompé de métier, hein.
Soit à se faire des papouilles extra-professionnelles dans la salle de repos, ce qui d'ailleurs ne facilitait pas le travail des rares journalistes qui bossaient dans la pièce d'à côté, car soi-disant la salle de repos était insonorisée.
Sauf qu'à travers le mur, j'entendais tout.
Tout ça, c'est fini. La salle de repos a été fermée et stérilisée. Désormais, chaque après-midi, les journalistes d'Europe 1 sont en compétition. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus palpitant, l'histoire la plus édifiante, sous le contrôle de ma fidèle complice, une journaliste si talentueuse qu'elle est hors compétition. Lauréate 2019 du prix de la meilleure question de l'histoire, catégorie plus de 150 mots, face à Maxime Chattam jeudi dernier. Une question qui démarrait ainsi.
Mais c'est cette idée-là qui a été qui a préconisé le bouquin. Non, c'était pas préconisé. Attends.
Et qui finissait 2 minutes 47 secondes plus tard avec l'équivalent journalistique d'un plat en plongeon olympique. Bonjour Eva Rock.
Ça commence très très bien, oui, Mathieu Noël, hein, si vous voulez que je reste jusqu'à la fin de la semaine.
Nous reviendrons sur ce beau moment de radio, vous nous direz également ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir. Mais d'abord, quelle joie pour moi, ou quelle souffrance, au choix, d'accueillir celui qui a démarré sa carrière quasiment en même temps que moi, qui me disait quand nous étions jeunes, un jour tu verras, je serai le Woody Allen français, côté artistique seulement je précise, et qui non seulement le petit salaud est en passe de devenir le Woody Allen français, mais qui non content de m'avoir piqué le destin qui aurait dû être le mien, m'a également piqué la muse qui aurait dû être la mienne, Nicolas Bedos et Doria Tillier sont nos invités cet après-midi. Alors, Nicolas, on va pas tourner autour du pot pendant 2 heures. Votre deuxième film, La Belle Époque, sort mercredi. Il est encensé par la critique après vous avoir valu une standing ovation à Cannes. Est-ce que vous n'êtes pas trop jaloux de voir que pendant que votre carrière fait du surplace, je présente le 16-18 d'Europe 1 Ça doit pas être facile pour vous, je me mets à votre
cas,
place.
En tout cas, vous me faites beaucoup rire.
C'est gentil, Nicolas. Il est devenu doux avec les années.
Oui.
Votre film est déjà un succès avant d'être sorti. C'est quand même assez incroyable, la critique est complètement dithyrambique. Est-ce que vous êtes serein à J-3 de la sortie du film ?
Oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a plus que des signes avant-coureurs. C'est,
oui,
c'est,
oui.
C'est vrai que c'est une sortie un peu étrange, parce que c'est vrai qu'on s'est baladé dans le monde entier. Bon, et donc on a vécu beaucoup de salles qui sont plutôt pas mécontentes. Mais bon, si ça se trouve, les Français vont faire la gueule, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ne seront pas heureux, peut-être qu'ils n'aimeront pas ça.
Doria, vous le sentez comment, vous ? Vous êtes optimiste ?
Bah, moi, je suis optimiste, mais moi, si vous voulez, j'ai pas la pression, comme les réalisateurs, de faire beaucoup d'entrées. Moi, le succès en salle du film n'impactera pas, je pense, ma carrière, mon prochain film.
Ah oui,
film.
Bah elle s'en fout, elle.
Non, mais c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est que les gens l'aiment. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai vu qu'il plaisait au public. Donc, voilà.
La Belle Époque sort en salle mercredi avec Doria Tillier, on va en parler, mais d'abord je vous présente les forces en présence, les amis, face à vous. Il est l'expert économique d'Europe 1, aucune crise financière n'a ébranlé sa foi en l'efficacité de la main invisible d'Adam Smith. Recevoir un invité de gauche est pour lui une véritable épreuve.
Ça me fait tomber dans les pommes avant, pendant, après.
Bonjour Axel de Tarlé.
Ce sont les piqûres qui me font tomber dans les pommes. Hein.
Shocking, c'est le mot qui convient pour illustrer cette crise économique qui s'annonce. La ville de New York s'apprête à bannir le foie gras au nom du bien-être animal.
Eh oui, alors est-ce que c'est juste, ça va concerner juste le foie gras ou est-ce qu'on est au début d'une aventure qui va nous amener plus loin avec l'interdiction
d'autres... Vous insisterez bien sur le mot foie gras parce que Nicolas Bedos qui est
oui,
avec nous cet après-midi
vois.
A vécu une nuit compliquée avec une intoxication alimentaire. Je suis sûr que le mot foie gras, j'ai réagi comme ça plusieurs fois, peut lui faire beaucoup de bien.
Je vais gerber sur Mathieu Noël.
Il se rapproche de moi.
Je tiens à dire à l'auditeur que je ne suis pas très très loin de galéter sur Noël.
À ses côtés, Doria Nicolas, je vous présente ce qu'on appelle une femme courage. Spécialiste environnement d'Europe 1, ce qui équivaut à être spécialiste éthique et solidarité chez Goldman Sachs, Anne Le Gall doit faire face quotidiennement au mépris de ses collègues lorsqu'elle tente de les alerter sur des sujets pourtant importants comme l'énergie solaire.
2% de l'électricité produite qui vient du soleil.
Oui, mais le gros problème du soleil, c'est quand il n'y a pas de soleil, comment on fait ?
Anne, c'est pas facile. Hein. Cet après-midi, Axel va encore râler puisque vous vous êtes amusé à calculer l'empreinte écologique du numérique. Vous avez vraiment de drôles de hobbies, vous, le week-end.
Oui, alors c'est vrai que c'est pas le plus rieur des sujets, mais c'est intéressant. Le numérique pollue en effet énormément, mais il y a des solutions pour contrer cette pollution, vous allez voir.
Merci Anne Le Gall, voilà pour le programme L'Équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, L'Équipe est sauvage.
Mercredi, vous découvrirez donc en salle le film qui leur a valu une standing ovation à Cannes en mai dernier, La Belle Époque, un film de Nicolas Bedos avec Doria Tillier. Eva, vous avez adoré le film.
Alors moi j'ai adoré le film, mais alors pour un tas de raisons, on va juste rappeler le pitch pour les gens qui vous ont
Elle
pas encore
entendu. Elle m'a même envoyé un texto hier soir pour je vais vous lire le texto, comme ça va faire authentique.
Voilà.
Cette merveille, le film de Bedos, trois petits points.
Paf, cette merveille.
Ça c'est authentique.
7 CE de TE, pas 7 avec
Oui, bon, on a compris. Racontez-nous.
J'essaie de faire le pitch du film, Nicolas et Doria, et vous me corrigez si c'est faux. Victor, qui est interprété par Daniel Auteuil, est un sexagénaire un peu désabusé, ça va pas du tout avec sa femme qui est jouée par Fanny Ardant. C'est un dessinateur de BD, un peu passé de mode, et puis un jour il va se séparer de sa femme et il va découvrir une entreprise tenue par Antoine. Cette entreprise, elle propose une attraction d'un genre nouveau, c'est-à-dire de pouvoir revivre une époque qu'on choisit avec des reconstitutions historiques mais très très fidèles, avec des comédiens, avec des décors, etc. Et lui, il va choisir, Victor, une année, un jour même précis de l'année 1974, le jour où il a rencontré sa femme. Et Doria Tillier, vous jouez sa femme, mais à l'époque, justement, dans cette grande reconstitution historique. Est-ce que ça va dit comme ça ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Je ne parle pas, évidemment, des fondamentaux qui sont la nostalgie, dont on va parler, etc.
On a perdu un peu d'audience, mais 4-5 points, c'est pas énorme. On peut relever le truc avec Mathieu.
On va trouver un truc, Doria, on va trouver une pirouette. Ouais, facilement.
C'est ça. En fait, je replonge quelqu'un qui est totalement largué par son époque, dépassé comme on l'est un peu, comme j'en vois beaucoup des Victor, en fait. Des Daniel Auteuil dans le film, j'en vois beaucoup autour de moi, et pas seulement mes parents, vos parents, et même nous un peu. Et du coup, je l'ai replongé dans l'époque, non pas pour faire l'apologie des années 70, mais pour qu'il aille là-bas retrouver la considération, l'amour, le désir, l'intensité qui lui permettent d'affronter à nouveau le présent. Voilà. J'avais envie de faire du bien à ces gens-là.
La Belle Époque sort mercredi. Doria Tillier et Nicolas Bedos sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, en le voyant arriver dans le studio tout à l'heure avec son petit costume Cyrillus, Nicolas Bedos s'est tout de suite dit...
Ça c'est le petit connard de la télé.
Non, c'est vrai que celle de Darley présente C'est dans l'air sur France 5, mais c'est avant tout un journaliste économique qui n'a pas peur de s'attaquer aux sujets les plus complexes. Aujourd'hui, il nous dit tout sur l'embargo qui s'apprête à frapper le foie gras à New York. La décision devrait tomber, il a passé des coups de fil pour s'en assurer.
I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas.
Oui, ou de Trump, le nouveau fantomas, à tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Doria Tillier et Nicolas Bedos pour la sortie mercredi de La Belle Époque. Un petit bijou, je le dis en toute honnêteté. Si je devais mettre un bémol, Nicolas, ce serait votre absence à l'écran. Vous ne jouez pas dans le film. Et je dis dommage, car depuis un fameux numéro de Thé ou Café avec Catherine Sellac, on sait que vous êtes un immense comédien capable de tout jouer. Écoutez.
Est-ce que vous avez toujours une addiction à la boisson ?
Non.
Oh, et on y croit quand tu l'as dit, j'ai cru, c'est fou, quel acteur. César 2020 en perspective. Face à vous, Nicolas Bedos et Doria Tillier.
Doria qui rit très fort.
S'avance à présent un journaliste qui fait honneur à sa carte de presse. Qui fait honneur à ses illustres prédécesseurs qui, à l'instar d'Albert Londres, ont supporté la plume dans la plaie. Il n'a pas peur d'appuyer là où ça fait mal, quitte à prendre des risques.
Et là, je voudrais passer un coup de gueule contre les campings.
Oui, bon. Alors, Axel de Tarlet, aujourd'hui, vous vous montrez à la hauteur de votre légende, puisque vous nous parlez d'un embargo terrible en passe d'être voté à New York, un embargo anti-foie gras.
Qui a même été voté par le conseil municipal de la ville, donc qui a interdit de vendre, de servir ou même de détenir.
De détenir
du foie. Oui, même on n'a pas le droit d'avoir de foie gras à New York. Vous encourez une amende qui peut aller jusqu'à 2 000 $.
Vous imaginez la communauté française à New York ?
Oui, alors même, en revanche, la filière foie gras est préservée parce qu'elle n'exporte plus aux États-Unis. C'est devenu tellement compliqué qu'elle n'exporte plus. Voilà, alors les producteurs de foie gras américains sont furieux. Ils disent, ben voilà, on est une cible facile parce qu'évidemment, on est foie gras, on est étiqueté nourriture de riche. Bon, et puis c'est vrai que le gavage, moi, j'ai jamais vu, mais... On imagine que c'est pas terrible.
Est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément le processus du gavage ?
Je parle devant
Nicolas Bedos,
qui apparemment a très mal au ventre, qui a un sachet pour vomir.
D'une légère intoxication
sur le gavage du foie gras.
Nicolas Bedos a été victime d'une légère intoxication alimentaire hier soir.
Et qui est assis à côté de moi, je précise.
Non, mais en fait, pourquoi je vous parle de ce sujet ? C'est parce qu'il est peut-être plus important qu'on ne le croit.
Ah, écoutez bien, Nicolas.
Les producteurs de foie gras disent attendez, là, ils ont eu. Ils ont les spécistes, parce qu'ils disent c'est l'œuvre des spécistes, ils ont ouvert une brèche et vous allez voir, il va y avoir d'autres conséquences. Et c'est vrai que de plus en plus, on parle du sort, non pas des canards, mais des poulets élevés en batterie, on en parle beaucoup en Europe. Et alors, à l'approche de Thanksgiving, il y a un autre type d'animal.
La dinde.
Exactement.
Non.
Eh bien, écoutez, les dindes, elles ont des poitrines tellement gonflées maintenant.
Très bon son en perspective, continuez.
Elles ont des poitrines tellement gonflées oui. qu'elles ne peuvent plus s'accoupler naturellement.
Ah, bien sûr.
Donc, on est obligé d'avoir entre le dinde mâle et le dinde femelle, on est obligé d'avoir.
Le dinde mâle. On apprend. Ici, c'est vraiment. On parle sur le contrôle d'Alain Bougrain-Dubourg. C'est-à-dire que là, on est vraiment au top de la biologie. Oui, le dinde.
Entre le dindon.
Ouais.
Et la dinde.
Le dindon, c'est
le mieux. Dindon.
Bon. On est obligé de donner un petit coup de main pour qu'il puisse y avoir des petites dindes. À tel point que beaucoup s'émeuvent du sort de ces pauvres dindes. Et je vous rappelle que Obama, lors de
Thanksgiving,
avait gracié deux dindes.
Il était chic, ce Obama.
Eh bien, ouais, ça fait très Jules César, ça. On gracie des dindes, de même que on graciait à l'époque des gladiateurs. Eh bien, ça, c'est le début du spécisme. Quand on commence à considérer que les animaux, après tout, qui sommes-nous pour les abattre? Et c'est le début de la fin du burger, du foie gras et du poulet.
Aymeric Caron, si tu nous écoutes, Doria, vous vouliez intervenir sur les dindes.
Oh, c'était pas très intéressant.
Oh, je suis sûr que c'est vraiment aussi intéressant que ce qu'on raconte Axel.
Je vous jure, j'ai un peu honte de moi. Non, à vrai dire, c'était sur la grâce présidentielle dont vous parliez d'Obama. Mais est-ce que c'est pas une tradition où tous les présidents font ça à Thanksgiving ou c'est
non, je crois que c'était une année. Il avait décidé de les gracier.
Axel, on vérifiera parce que là,
oui, je suis pas sûr.
Voilà, comme Doria le dit, j'ai l'impression.
Mais j'ai l'impression que Doria a raison. Il y a toujours la grâce de la dinde. Il y a une dinde, celle qui est reçue à la Maison Blanche, si j'ose dire. Elle est graciée par le président.
Alors, je crois que c'est dans une tradition. On avait en parlé en 2014 et on n'en parle plus depuis. Quand c'est Trump qui gracie, tout le monde s'en fout.
Je ne sais pas, Axel, mais c'est vous le journaliste, pas moi. Merci, Axel, de parler. Doria Tillier, Nicolas Bedos, le personnage principal de La Belle Époque, incarné par Daniel Auteuil, est dans une nostalgie d'un monde qui n'est plus. Est-ce que vous aussi, côté foie gras, vous estimez que c'était mieux avant? Nicolas Bedos, je vous pose la question à vous, parce que je sens que vous êtes concerné par le sujet. Est-ce que vous êtes concerné, en gros, par le sort des animaux?
En tout cas, assez pour que j'ai eu envie de faire un film qui interroge cette notion de nostalgie. Mais quand je dis l'interroge, c'est parce que c'est pour la questionner, cette question-là. Pas pour l'applaudir ou me vautrer dedans. Parce que ça pourrait, à une époque, en tout cas, ça aurait pu être ma tendance. C'est vrai. Il y avait un goût très prononcé pour le 19e fantasmé, pour les années 20, les années... Les années 40, qui devient un peu chelou au fur et à mesure de sa vie. Et oui, beaucoup aimé certains endroits de l'Europe où il faisait bon vivre. Voilà. Et mais c'est vrai qu'il y a un truc, j'observe autour de moi, même des gens progressistes, même des gens qui jusqu'à aujourd'hui embrassaient plutôt le progrès. Bah, tout à coup, ils confessent de façon assez émouvante. Je suis paumé.
Mais Doria, vous êtes nostalgique ou vous êtes encore trop jeune pour l'être?
Ouais, moi je suis très nostalgique, mais j'ai bien aimé justement le film de Nicolas parce que. Enfin, il peut apparaître comme nostalgique, mais en fait, moi, il me console plutôt de ma nostalgie. Donc, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait sourire et prendre tout ça avec légèreté.
Je pense que ça va vous faire du bien aussi à vous qui nous écoutez. La Belle Époque sort mercredi dans les salles. Doria Tillier et Nicolas Bedos sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, le neuropsychiatre qui la suit à Cochin et qui signe chaque décharge qui lui permet d'être avec nous certains après-midi est formel, elle fait des progrès. Un optimisme que j'aimerais partager, mais ce n'est pas facile. Sachant que la dernière fois qu'elle a gagné, elle s'est exclamée
« Ouais !» J'ai gagné sur les spermatozoïdes.
Ouais, mais bon, c'est vrai qu'on sort pas du LSD facilement. Il faut lui laisser le temps. Anne Le Gall nous parle aujourd'hui du bilan carbone du numérique, car contrairement à ce qu'on croit, c'était pas forcément meilleur pour la planète d'écouter de la musique en streaming qu'en CD. J'ai découvert ça. On vous explique juste après Big Flo et Oli, promesse sur Europe.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures en équilibre instable sur cet étroit filin qui sépare l'info la plus rigoureuse du divertissement le plus potache. On passe un moment délicieux avec Doria Tillier et Nicolas Bedos qui me disait durant le disque qu'il adorait notre émission.
J'aurais peut-être dû attendre un peu avant de le dire, mais j'arrivais de ne pas le penser longtemps.
Mercredi sort en salle La Belle Époque. Nicolas Bedos, c'est votre deuxième film en tant que réalisateur et votre deuxième film avec Doria Tillier. Cette fois, on le disait, vous n'êtes pas à l'écran, c'est Guillaume Canet qui joue le rôle quelque part que vous auriez pu jouer. Pourquoi ce choix?
Parce que j'avais envie que le film ne soit pas réduit à une dimension... un peu anecdotique et autobiographique, et je voulais que ça soit un film, enfin j'espérais que ce soit un film un peu universel. Et donc Guillaume, d'abord il m'a apporté cette espèce de sourire, et c'est pas de la fausse modestie que de dire qu'il est plus populaire, qu'il est plus charmant, qu'il est plus sympathique que je ne le suis. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose, il est pas entaché par tout mon passé que vous
Doria
connaissez.
Je le trouve dur avec lui-même. Doria Tillier, vous trouvez pas qu'il est dur avec lui-même?
Moi je
le
trouve toujours exact, Nicolas. Là, je trouve qu'il a toujours
vous trouvez qu'il a bien fait, il a bien fait de pas se mettre en film.
Je suis toujours d'accord avec lui.
Et puis voilà, et puis surtout ça m'a permis que les gens se disent pas tiens c'est l'histoire de Nicolas avec Doria, parce que bon voilà, vie privée, vie publique, tout ça. Tandis que là, là, en plus, c'était la vérité. C'est un metteur en scène qui est joué par Guillaume Canet, qui était inspiré aussi de tous les gars de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, Truffaut, plein d'anecdotes, Cassavet, tout ça, tous ces relous qui ont confondu un peu leur amoureuse et les personnages féminins de leurs films et tout. C'est dans une tradition.
Alors que vous, pas du tout, jamais.
Si, bien sûr.
Et il n'y a pas eu un petit problème sur le plateau avec Guillaume Canet, genre il est réalisateur lui aussi, est-ce qu'il s'est laissé complètement diriger ou par moment il vous disait là Nicolas j'ai fait plus de films que toi, là il faudrait faire
non, pas du tout.
Il a été très cool et très respectueux de votre travail.
En fait c'est s'il était là aussi Guillaume, c'est non seulement par le talent qu'il a évidemment, qui est assez indéniable, et en même temps parce qu'il avait émis l'envie de travailler avec moi. Guillaume et sa fiancée nous ont beaucoup encouragés quand on a fait Adelman et qu'ils l'ont vu. C'est des gens qui ont encouragé Doria, qui nous ont couvert de choses positives. Et donc, quand il s'est agi de chercher un Antoine, ben voilà, ça fait gagner du temps de travailler avec quelqu'un qu'on estime et qui nous estime.
Doria, j'ai lu que vous auriez, vous, du mal à choisir l'époque que vous aimeriez revivre. Il y a plusieurs époques qui vous fascinent. Pas forcément revivre, d'ailleurs, l'époque à laquelle vous voudriez être transporté.
Bah, c'est vrai que si on a le choix, déjà, moi, faire un choix, c'est toujours très compliqué. Alors, c'est pour ça que j'ai du mal. Mais, je sais pas, bah c'est sûr que dans le film, il y a une fille par exemple qui veut se prendre pour Marie-Antoinette. Ça, j'aurais bien aimé. Ouais,
jouer Marie-Antoinette.
Parce que le principe de cette société, c'est qu'on peut, être plongé en fait dans l'univers de son choix et on peut interpréter aussi le personnage qu'on veut. Donc, jouer Marie-Antoinette, j'aime ce cadre-là. C'est une langue, je pense, la langue de cette époque qui me plaît pas mal. Mais en même temps, il y a une scène qu'on a tournée avec Daniel, parce que bon, on fait plusieurs prises forcément, et je l'ai vu gifler Hitler 5 fois de suite à peu près. Enfin, en même temps, non, j'aurais pas spécialement aimé, c'est pas ça mon fantasme. Mais non, je préfère rien.
Et vous, Nicolas, en tournant le film, vous avez réfléchi à l'époque que vous aimeriez vivre ?
J'aurais bien vu Doria Tilly dans le rôle de Staline, en revanche.
C'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'une suite, peut-être. Elle est épatante dans le deuxième film de Nicolas Bedos, La Belle Époque, sort en salle mercredi. Doria Tilly et Nicolas Bedos sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, c'est, il est vrai, une personne que l'on peut qualifier de chelou. Tant par ses hobbies...
Aller sur le site de l'ADEME.
Que par ses passions...
Trier les spermatozoïdes.
Que par sa manière exagérée de simuler l'orgasme.
Mais que c'est exquis, vraiment, vraiment que c'est bon.
Oui, Anne Le Gall est une meuf bizarre. Mais son combat est juste un combat pour l'écologie. Aujourd'hui, elle nous explique que le bilan carbone du numérique n'est pas neutre et qu'un e-book n'est pas forcément meilleur pour la planète qu'un bon vieux bouquin papier. À tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec un des plus beaux tandems du cinéma français, Doria Tilly et Nicolas Bedos, qui fête avec nous la sortie en salle mercredi de La Belle Époque. Nicolas, c'est votre deuxième film, on le disait, en tant que réalisateur. Dirigé Daniel Auteuil, Pierre Arditi, Fanny Ardant. C'est simplement excitant ou c'est quand même un peu terrorisant?
Les deux.
Moi, les deux. Les deux.
Au début, c'est un terrorisant, pour reprendre vos mots, et puis après... Il y a des moments où c'est très excitant. La scène de fin du film, les retrouvailles.
Oui.
Ce moment-là, on était tous au cinéma et je crois qu'on a vécu tous. Mais alors vraiment, même ma script qui a fait 15 films, mon chef opérateur qui a fait... on était tous en train d'assister à quelque chose. Quoi.
Doria Tilly, vous jouez, donner la réplique à Daniel Auteuil, c'était quelque chose d'assez excitant ou d'assez intimidant? Comment vous l'avez vécu?
En fait, c'était intimidant pour moi avant de commencer à travailler parce que... je sais pas, c'est Daniel Auteuil, ça, on se dit, bon. Et puis, dès qu'on commence et qu'on joue avec lui, c'est un acteur, donc on n'a pas Daniel Auteuil en face de soi, mais moi, j'avais vraiment le personnage. Enfin, ça fait un peu genre parole d'interview, mais franchement, c'est ce que j'ai
c'est
ressenti.
C'est ce que vous avez ressenti,
ouais. Ouais, je le regardais et j'étais avec le personnage. Mais il y avait vraiment ça dans ce film, c'est-à-dire que dès que Nicolas disait action, on était tous dans nos rôles et on a eu l'impression de vivre cette histoire.
Ça, c'est l'autorité naturelle de Nicolas.
On continue. C'est l'autorité, je crois, naturelle de ce scénario. Alors pourtant, je sais qu'il est inspiré par des bribes de choses glanées ici ou là dans mon entourage et tout, mais en fait, Fanny Ardant, Doria, Guillaume, Daniel, tous ces acteurs se sont totalement projetés dans leur personnage. Comme aujourd'hui, il y a des gens à Zurich, à Hambourg, à Rome, qui se projettent dans cette histoire, alors que je ne savais absolument rien des années 70 en Italie ou en Allemagne quand j'ai commencé à l'écrire. Donc c'est très joyeux quand quelque chose qui vient de soi devient, est emparé, les autres s'en emparent. C'est magnifique.
On continue d'évoquer ce très beau film qui sort mercredi, je vous le rappelle. Mais vous le savez, la compétition n'attend pas. Voici, drapé dans son idéal écologique, la bonne conscience d'Europe 1. Comme la liberté guidant le peuple, mais avec un chemisier plus occultant, Anne Le Gall nous exhorte à plus prendre en compte la planète dans notre manière de consommer. Parfois, ça va loin. Comme mardi dernier, elle a à nouveau tenu des propos incompréhensibles.
Je vais vous parler de recyclage originaux, des mégots en doudoune, des cheveux en briques.
Ne pas accabler le patient, toujours aller dans le sens du malade. Même si, bien sûr, Nicolas Bedos, on fait tous le même constat.
Il faut avoir bu beaucoup pour en arriver là.
Oui, c'est vrai. Allez Anne, aujourd'hui on se ressaisit, vous nous parlez de l'empreinte carbone du numérique, c'est-à-dire...
Oui, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, le numérique pollue, et souvent on a tendance à sous-estimer cette pollution. Si Internet était un pays, donc il serait le 5e consommateur mondial d'électricité, et ce qui consomme le plus sur Internet, ce sont les vidéos en streaming que l'on regarde tous, hein. je me comprends dans le lot.
Ah, moi, je suis méga pollueuse, là.
Ça représente les deux tiers de la circulation des données sur Internet. Et rien que les vidéos YouTube, c'est l'équivalent de la consommation d'électricité d'une ville comme Lyon.
Mais ça ne pollue qu'en électricité, on est d'accord. Enfin,
ça pollue en électricité, c'est déjà énorme. Oui. Alors après, on peut rajouter aussi tous les composants qu'il y a dans les ordinateurs. Il y a les vidéos, il y a les emails. Les emails, il faut savoir qu'un mail, même s'il passe d'un étage à l'autre, c'est 15 000 kilomètres de trajet entre le point d'arrivée et le point de départ, le temps de passer par tous les serveurs.
Enfin, d'accord, sauf que ça, quand un mail, c'est moins polluant qu'une lettre.
Non, détrompez-vous.
Enfin, la petite kangou du postier, là, ça pollue tout ça.
Pour stocker tous nos emails, parce qu'on les stocke, on les garde, ces mails, il faut l'équivalent en électricité d'une zone de 4 millions d'habitants, rien que pour les emails des Français. Si on ajoute à cela l'utilisation des applis, on en a en moyenne 35 sur nos téléphones, eh bien, la consommation énergétique du numérique augmente de 9% par an.
Alors, moi, je suis nostalgique, mais je ne vais pas quand même couper Internet et arrêter de me servir de mail. Qu'est-ce qu'on
mais
fait
Mais vous avez raison. L'idée, ce n'est pas de dire c'était mieux avant, etc. On ne va pas compter sur la technologie. On ne pourra pas faire marche arrière et la technologie va aussi nous aider à avoir une consommation intelligente avec des maisons connectées, économes en énergie, par exemple. Donc, le premier geste indolore qu'on peut faire, nous, c'est nettoyer sa boîte email, ne pas garder trop de vieux mails ou de newsletters.
Allez-y, Mathieu.
Non, mais je crois que j'en ai un nom qui est invraisemblable.
Parce qu'il faut savoir qu'une newsletter, c'est la même empreinte carbone qu'un sac plastique. Donc si on se désabonne des newsletters inutiles, on fait déjà un petit geste. Il y a des applis pour ça, notamment CleanFox, qui est une application gratuite qu'on peut utiliser, qui va nous aider à sélectionner les newsletters inutiles qu'on n'ouvre jamais.
Ah, ça c'est bien. Comment ça s'appelle ?
CleanFox.
Mais alors, sauf qu'on prend une application pour...
C'est le cerceau qui se
mord la queue. Il faut le faire une fois et puis après on se débarrasse des newsletters inutiles. Un autre geste, c'est de faire appel au bon sens, donc n'avoir qu'un téléphone portable au lieu de deux quand on peut, donc pas un pro, pas un perso, mais on fusionne dans les deux quand on peut, ou utiliser parfois des supports matériels autres que le numérique. Par exemple, un bon vieux DVD, c'est mieux que le streaming. Et c'est la même chose pour les livres papier. Il faut souvent mieux utiliser un livre papier qu'une liseuse numérique. Alors là, il y a eu des calculs très précis. Si on lit moins de 50 livres par an, il vaut mieux acheter des livres papier que d'utiliser une liseuse numérique. Parce que le papier,
de toute façon... Je pense qu'il y a peu de gens qui lisent plus de 50 livres par an.
Justement. Donc, il faut faire tourner le commerce de livres. De toute façon, 90% du papier utilisé dans les livres est du papier durable. Donc, recyclé ou issu de forêts gérées durablement. Donc, tous ces petits gestes, évidemment, ne suffiront pas à gommer l'empreinte numérique. Il faudra aussi compter sur les innovations pour consommer moins, utiliser des énergies renouvelables, refroidir les data centers avec de la géothermie, par exemple. Mais toutes ces petites habitudes que je viens de vous citer, eh bien, si on les met bout à bout, les scientifiques du groupe d'études Shift Project ont calculé qu'on pourrait contenir la hausse de la consommation d'énergie à 1,5% par an au lieu de 9%. Donc c'est déjà ça. Ce sont déjà des petits pas.
Des petits pas. Doria Tillier, vous êtes branchée nouvelle technologie, parce que je sais que Nicolas Bedos publie beaucoup sur Instagram, vous au moins ?
Non, pas du tout, moi. Je suis pas du tout branchée nouvelle technologie. Déjà, je sais pas y faire, mais je pense que c'est un peu un acte manqué de ma part. C'est-à-dire, je suis pas douée et je pense que je veux pas l'être.
Axel ?
Plutôt qu'une question, traditionnellement, à la fin de chaque chronique, il y a une question vache qu'on pose à l'ennemi, parce qu'en fait, on est en compétition, je vous rappelle. Alors moi, pour m'attirer les faveurs du public, plutôt qu'une question vache, de ceux qui vont me noter, j'ai une recommandation à faire. Vous voyez, le film de Nicolas Bedos et de Doria, plutôt que de le regarder en streaming et de polluer la planète, déplacez-vous
surtout,
en cinéma.
Surtout, d'autant qu'il est complètement illégal
salle,
de le regarder en streaming.
Exactement, plutôt que de le télécharger illégalement, vous allez en salle, vous serez bien assis et vous ne polluerez pas la planète.
Merci.
Mais c'est très bienvenu, ça.
Voilà, Axel de Tarlé, en haut à droite, pour voter pour lui.
Merci à tous les deux. Entre nous, Axel, comment vous avez trouvé Anne?
Communiste bolchevique. Hein.
Merci. Son deuxième film, La Belle Époque, sort mercredi. Nicolas Bedos passe l'après-midi sur Europe 1 avec son actrice et muse, Doria Tillier.
Europe 1.
À suivre, un moment toujours très attendu des auditeurs, un peu moins des baroques. Le quiz qu'il oppose à nos invités. Séquence rieuse pour les uns, humiliation tombant sous le coup de la Convention de Genève sur la torture pour les autres. Devant le tribunal, je dirais comme Nicolas Bedos.
Je pense qu'on est plus exigeant quand on connaît très très bien quelqu'un. J'avais envie de la pousser au bout de ce que je la savais capable de faire.
Mais voilà, oh, Eva, j'avais envie de vous pousser au bout. Au bout, c'est pour ça.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la Ligue des champions des journalistes d'Europe 1. Deux heures pour déterminer qui mérite son abattement fiscal et qui mérite d'aller faire un tour du côté du Pôle emploi spectacle du 15e. Deux heures également pour apprendre à mieux connaître un invité, voire des invités. Aujourd'hui, à J-3 de la sortie en salle de La Belle Époque, on est ravis d'accueillir Doria Tillier et Nicolas Bedos qui passent un très bon moment en notre compagnie. Un mot pour résumer ce que vous inspire notre émission?
Presque tout.
Oui.
Le sommeil et l'ennui.
Bien. Alors Nicolas, je sais que vous êtes très attaché à Doria, mais l'heure est venue de vous présenter une femme exceptionnelle. Voici Eva Rock.
J'ai aucune envie d'aller là-dedans. Hein, franchement, je m'y ferais chier.
Non. Alors non, mais non, mais il n'y a pas question de ça, Nicolas. C'est simplement l'heure du quiz. L'heure où normalement.
Je suis désolé. J'y suis pour rien.
L'heure où normalement l'invité doit affronter Eva dans un duel intellectuel de haut vol, mais pas aujourd'hui, car aujourd'hui je vais faire plus vicieux. Semer la discorde au sein d'un couple. Nicolas Bedos, Doria Tillier, votre love story n'a que trop duré. Il est temps de vous déchirer et de vous foutre sur la gueule. Voici le premier quiz entre l'invité et l'invité. Votre film La Belle Époque raconte l'histoire d'un sexagénaire qui veut revivre la rencontre amoureuse qu'il a vécue 40 ans auparavant. Faisons donc un vrai faux sur l'amour avec un grand A. Doria Tillier, le papillon migrateur appelé Monarque, est non seulement monogame, mais en plus s'éloigne quand une femelle s'approche trop près de lui. Vrai ou faux?
Vrai.
Vous avez répondu, mais tellement rapidement qu'on sent que vous connaissez bien
le papillon monarque.
Le papillon monarque. Eh bien, c'est faux. C'est une toute autre ambiance, puisque le mâle force la femelle à avoir des relations sexuelles. Puis, une fois terminé, il colmate l'orifice de la femelle avec des aliments. Chic. Chic.
Mais c'est horrible, votre histoire.
Très belle histoire. La nature est merveilleuse. Nicolas Bedos. C'est dans un épisode de Star Trek qu'on a vu pour la première fois à la télé américaine un baiser entre un blanc et une noire. Vrai ou faux?
Oui, vrai.
Alors là, ça venait de plus loin. On sent que Nicolas hésitait. Et pourtant, oui, c'est vrai.
Ouais.
1968.
Je me souviens de ça.
Le Cap. Mais 1968. Ah, vous
non,
vous souvenez,
non,
vous l'avez vu.
Dans un documentaire.
Ah,
tu vois,
oui, oui. J'ai eu peur. Le capitaine Kirk embrasse à pleine bouche le lieutenant Uhura. La chaîne NBC ne voulait pas de ce baiser. Et l'équipe de production a tourné cette scène en étant persuadée que la série serait arrêtée avant la diffusion. Ce qui n'a pas été le cas. Doria Tillier, Nicolas Bedos, une question. Vous répondez ensemble. En 2002, un étudiant de l'université d'Utah a sorti le grand jeu pour la Saint-Valentin. Qu'a-t-il fait? Trois propositions. 1. Il a volé des pierres venant de la Lune pour faire l'amour dessus avec sa copine. 2. Bon, Eva, vous aimeriez connaître un romantisme de ce niveau-là.
Ouais, sans pierre de lune,
ça me ferait déjà plaisir. 2. Ouais,
oui.
Il a demandé à tous les ex de sa copine d'écrire un petit mot sur une carte pour dire que c'était lui le meilleur. Ou 3. Oh. Il a tourné dans un film sans lui dire avec un t-shirt où le prénom de son amoureuse était inscrit.
Oh, moi, je pense plutôt que c'est la 3. C'est ce qui me semble. Voilà.
Vous dites la 3 tous les deux?
Oui.
Vous avez faux tous les deux. Ils ont fait l'amour sur des pierres de lune. Stagiaire à la NASA, il a volé des échantillons lunaires avec des complices. Avec Rebecca, ils ont fait l'amour dessus.
On dirait un poème surréaliste.
Oui, c'est un peu ça, c'est un peu Aragon. Ils ont finalement été arrêtés par le FBI, les pierres ont été retrouvées, mais contaminées, elles n'avaient plus de valeur scientifique. Nicolas Bedos, depuis le milieu du 19e siècle, on dit « mariage pluvieux, mariage heureux
». Oui.
Parce que cela vient d'une chanson grivoise où je cite « la mariée se doit d'être humide ». Vrai ou faux?
Oh, Mathieu. Oh, c'est horrible.
Non.
Vous êtes sûr?
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça, il a raison. Il n'a pas été déstabilisé par mon machiavélisme. À l'origine, c'était mariage plus vieux, sous-entendu. Il ne faut pas se marier trop jeune pour mieux apprécier son histoire amoureuse. Doria Tillier, Roy Sullivan a été touché 7 fois par la foudre, mais il a survécu. Puis, coup de foudre avec une femme, chagrin d'amour, il s'est suicidé. Vrai ou faux?
7 fois, ça fait beaucoup quand même. Mais peut-être que c'était son métier, un truc genre, voilà. Alors j'ai envie de dire vrai, mais j'ai tort à chaque fois. Mais je dis quand même vrai.
Vous avez... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Un point pour Doria Tillier. Selon le livre des records, il a été l'homme le plus foudroyé au monde. Garde forestier, il est mort à 71 ans. Son dernier amour en avait 30. Chagrin d'amour, bam. Fin de l'histoire.
Triste.
C'est Nicolas Bedos qui remporte le quiz malgré son intoxication alimentaire, comme quoi il a su surmonter l'épreuve. C'est magnifique.
Ouais.
La Belle Époque sort mercredi en salle. Nicolas Bedos et Doria Tillier sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, Doria, je sais que vous êtes une authentique féministe. Or, nous allons prendre la direction de l'Espagne. Oui, quand on prend la direction de l'Espagne sur Europe 1, on se donne les moyens sonores de ses ambitions. L'Espagne, où les footballeuses ont deux priorités dans la vie, ma chère Doria. Deux exigences, de jouer au football.
Et puis de baiser, bien sûr.
Oui, non, peut-être, mais surtout d'être payées. Pendant que Messi hésite entre la dernière Lamborghini ou un troisième jet, elles sont actuellement en grève. On vous explique juste après une chanson qui aurait été belle dans un film. J'espère que personne n'y a encore pensé. J'ai 10 ans, Alain Souchon sur Europe 1. J'ai 10 ans, c'était Alain Souchon sur Europe 1, une chanson qu'on entend dans le nouveau film de notre invité Nicolas Bedos. Or, la chanson qui démarrait le générique de fin de Monsieur et Madame Adelman, votre premier film, c'était aussi Souchon. C'est votre Madeleine de Proust, Souchon ?
Ah, j'adore cet homme, je l'admire énormément. Il a fait des chansons magnifiques. Et on en parlait avec Doria pendant la chanson. Là, à un moment donné, on s'était dit tiens, terminons tous nos films à venir, si on en a la chance, par une chanson d'Alain Souchon. Et puis, non.
Et puis non, mais vous avez de la tendresse pour lui. Et puis non, pourquoi ?
Parce qu'elle était mieux au milieu du film.
Ah non, mais oui, pas finir. Mais il y aura du Alain Souchon, je peux vous le garantir, dans tous les films de Nicolas Bedos. Nous nous y engageons, tous les trois.
Puis quand on aura fini Souchon, on passera à Woolsey. Puis après,
évidemment,
puis après,
c'est infini.
On passera à Patrick Fiori. On ira comme ça de mal en pis, si vous voulez.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Doria Tillier, Nicolas Bedos. Deux heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, même si, attention, il y a des sujets qui prêtent moins à rire que d'autres. Et là, par exemple, pour vous parler de la grève des footballeuses en Espagne, ce n'est pas le saltimbanque, le guignolo qui vous parle, mais le journaliste. C'est pourquoi, en régie, on va se calmer sur les sons à la con, j'en vive à Espagna au xylophone. Quand j'annonce qu'on part en Espagne, le sujet est important, reprenons-nous, on prend la direction de l'Espagne.
Escucha, non,
c'est pas possible. Merde. Bon, tant pis. Bonjour Henri de Laguérie.
Bonjour Mathieu.
Alors chez vous, il n'y a pas que les indépendantistes qui font grève, on a appris que les footballeuses allaient aussi stopper le travail.
Ben oui, c'est une grande première Mathieu, la grève des joueuses de première division. Elles en ont assez d'être sous-payées. Et les 200 footballeuses de la Liga Iberdrola touchent autour de 700 euros par mois.
Ah oui.
Beaucoup ont des contrats à mi-temps, elles sont obligées de travailler à côté. Elles réclament donc un salaire de 1000 euros par mois. En France, sachez qu'elles touchent en moyenne 2500 euros chaque mois. Leurs homologues masculins sont évidemment sur une autre planète, avec un salaire qui atteint presque le vôtre, Mathieu, à 200 000 euros par mois.
Pas tout à fait, quand même. Pas tout à fait.
Tout à fait, oui, c'est ça. Ils sont un petit peu en dessous encore.
Et moi, j'ai des tickets restaurants en plus.
Ouais, voilà. Alors, peut-être que Griezmann, Benzema ou Messi se rapprochent plus de vous, parce que là, ça se compte en millions d'euros. La grève illimitée va donc commencer le 16 novembre prochain. Pas de match de championnat ce week-end-là, faute de joueuses.
Mais c'est seulement une question d'argent.
Ben non, en fait, évidemment, elle réclame plus de reconnaissance dans l'élan de la Coupe du Monde en France qui a eu lieu au printemps dernier. Vous vous en souvenez, l'Espagne se vantait de développer le foot féminin. Et l'année dernière, Atlético de Madrid-Barcelone avait battu un record mondial d'affluence pour un match féminin avec 60 000 spectateurs. Des sponsors sont arrivés, les matchs de championnat sont parfois diffusés à la télé. Et les journaux sportifs qui mettaient, il y a encore quelques années, des femmes nues sur leur dernière page, eh bien, suivent aujourd'hui de plus en plus le foot féminin. Barcelone était d'ailleurs en finale de la Ligue des Champions contre Lyon l'année dernière, mais cet intérêt médiatique ne s'accompagne pas de cette reconnaissance. Et les joueuses ont le sentiment de ne pas être respecté. Le problème, c'est que même si tout le monde reconnaît que leurs revendications sont légitimes, pour les plus petits clubs, ceux qui ne s'appuient pas sur une équipe masculine de première division, il est difficile de joindre les deux bouts. Une augmentation des salaires mettrait en péril leur santé financière.
Et elles sont soutenues ? Cette grève est populaire ou pas ?
Oui, vraiment, sur les réseaux sociaux, les gens leur apportent leur soutien. On le sait, l'Espagne est à la tête en Europe du combat pour l'égalité homme-femme. Mais il y a un collectif qui reste bien silencieux, celui des footballeurs. Pas une déclaration en zone mixte à la fin d'un match, pas même un petit tweet. Ce silence est honteux, on ne vous demande pas grand-chose, simplement un peu d'empathie. S'indigne notamment Gemma Herrero sur Twitter. C'est l'une des rares femmes journalistes à couvrir le foot en Espagne.
Merci Henri de Laguérie et bravo à Axel de Tarlet qui s'est retenu. Il n'a pas fait son accent espagnol pourri et ça, c'est tout à son honneur.
Ah ah, tout m'intéresse.
Jusqu'à maintenant, il s'est retenu. L'équipe est sauvage continue la belle époque de Nicolas Bedos en salle mercredi avec Doria Tillier. Nicolas Bedos, qui il y a quelques années était un des chroniqueurs satiriques les plus caustiques. Sur les politiques notamment, vous n'hésitiez pas à aller très loin, mais pas aussi loin que le romancier Maxime Chattam qui était notre invité jeudi et à côté de qui, rétrospectivement, vous étiez un enfant de cœur, Nicolas. Écoutez, on parlait du blob, un organisme flasque et dépourvu de cerveau. Tout de suite, chez Chattam, ça a fait tilt.
Il se nourrit, mais il n'a pas de bouche. Il se déplace, mais il n'a pas de pattes. En fait, c'est une cellule rampante.
C'est Valéry Giscard d'Estaing, vous parlez
Pardon, monsieur le président.
Va falloir muscler votre jeu, Nicolas. Je vous sens pas prêt à monter sur le ring de l'humour avec des compétiteurs pareils. En attendant, l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 continue. Dans un instant, de nouveaux concurrents arrivent. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage s'apprête à entrer dans sa deuxième phase. Deux nouveaux journalistes vont nous rejoindre pour tenter d'épater nos invités Doria Tillier et Nicolas Bedos. On parlera notamment des derniers progrès de l'intelligence artificielle qui pourraient nous aider à limiter les embouteillages. Mais à ce stade, j'aimerais rendre hommage à ma complice, Eva Rock.
Une femme de l'ombre qui porte l'ambition d'un homme.
Oui, Eva qui, outre sa chronique média, m'épaule, c'est vrai, tout au long de l'émission. Lorsqu'elle me sent par exemple à court de questions avec l'invité, elle prend la main. Toujours avec brio et professionnalisme, la séquence que vous allez entendre maintenant fait d'ores et déjà partie du matériel pédagogique du CFJ, le Centre de Formation des Journalistes, dans la catégorie « à ne pas faire ». Voici, mesdames et messieurs, aspirants intervieweurs, la plus belle question de tous les temps.
Mais c'est cette idée-là qui a été qui a préconisé le bouquin ?
Non, c'était pas préconisé. Vous voyez ? Ouais. Non, c'est cette idée-là
C'est cette idée-là qui a inspiré le fait que... Non, tu vois, ça marche pas du tout. C'est cette idée sur les GAFA qui a fait que vous écrivez ce livre-là, où il y a aussi l'ambiance un peu écologique, fin du monde, dont on parle régulièrement dans les médias.
Le plus fou, c'est que Maxime Chatham a réussi à répondre quelque chose à ça. Je sais pas comment il a fait. On l'embrasse.
Je vous merde.
Oh, Eva, c'est qu'il est déjà 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage bat son plein. Quatre journalistes valeureux lancés au galop dans la pampa du savoir. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil de nos invités d'honneur Doria Tillier et Nicolas Bedos. Nicolas, qui je le sens passe un merveilleux moment. Là, il vient de réaliser qu'il y a une deuxième heure. Je sais ce que vous vous dites.
Délivrez-moi de ce connard, putain.
Non, non, vous vous dites quelle joie de prolonger nos retrouvailles depuis le temps qu'on s'est pas vu. On continue de parler de ce très beau film, La Belle Époque, en salle mercredi. Le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. Face à vous, Doria, on a souvent présenté Nicolas Bedos comme un beau gosse. Longtemps, c'est comme ça que vous-même vous l'avez vu, comme un esprit brillant, astucieusement associé à un physique irrésistible. Mais ça, c'était avant que vous rencontriez Anissé Mbida. Anissé, c'est l'esprit brillant de Nicolas dans le corps d'un mannequin slip Dolce Gabbana. Le meilleur des deux mondes. En plus, question humour, vous ne serez pas déçus, monsieur a des références solides, c'est notamment un gros fan des bronzés. Même si la dernière fois, face à Patrice Lecomte, il ne se souvenait plus du nom de la recette du fromage servi à l'étalé, la fougne, est donc devenu, par un joli lapsus qui en dit long sur sa gourmandise.
Aujourd'hui, on aurait certainement un Jean-Claude Duss, typiquement pour les bronzés, hein, quand on est en train de manger la fougne.
Oui, exactement, c'est presque ça, Anissé Mbida, vous êtes l'expert innovation d'Europe 1. Et aujourd'hui, vous nous parlez des derniers progrès de l'intelligence artificielle. Là, vous y connaissez mieux qu'en bronze.
Oui, un peu mieux qu'en fougne, par exemple. Donc c'est un sujet qui, j'espère, devrait intéresser tous ceux qui nous écoutent actuellement dans les bouchons. On a trouvé une technique pour diviser par deux les bouchons, et ça, sans embêter les automobilistes. Comment... Je vous explique juste après.
Ça m'intrigue beaucoup, je comprends.
Ah bah, vous allez
voir. Mais attendez, ça chronique, à chaque fois vous faites le coup.
Face à vous, Anissé, un autre modèle de beau gosse, autre style.
Ouais, mais c'est sympa, le vintage.
Oh non, ça c'est dégueulasse, Anissé. Non, je vous présente l'expert rock de la station. Une station qu'il l'appelle toujours...
Europe numéro 1.
Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes notre mémoire musicale et vous faites partie de ces gens qui vont aller voir La Belle Époque les yeux fermés, rien que pour la bande-son.
Bah oui, parce que moi j'étais né en 74. Alors j'ai fouillé dans mon manche disque et dans mes 45 tours ce week-end. Je vous ai dégoté les petits tubes de l'époque.
Vous aviez quel âge en 74?
4 ans. Donc, et croyez-moi, on n'oublie pas.
C'est ça. Anissé Mbida ou Jean-Philippe Ballas, Doria Tillier commence à réfléchir alors que je sens que Nicolas Bedos les déteste déjà tous les deux. On connaîtra de toute façon la réponse juste avant 18h. Le temps de faire un point à J-3 de la sortie de La Belle Époque. Qui sont pour vous Nicolas Bedos et Doria Tillier? Que vous évoque ce couple déjà emblématique du cinéma français? On est allé vous poser la question. Il ne s'agit évidemment pas d'un vulgaire micro-trottoir toujours monté pour flatter l'ego déjà souvent fort boursouflé des stars. Non, voici notre micro trop trash. C'est comme un micro trottoir, sauf qu'on a tout laissé.
Nicolas Bedos,
il est acteur et réalisateur. C'est lui qui vient de faire La Belle Époque.
Oh ben, c'est un grand gaillard, un peu timide, probablement un peu perturbé, mais sympathique.
Moi, Doria Tillier, je la trouve belle,
Toi, t'es beau sourcil à l'actrice.
Beaucoup de talent comique, je trouve. Je la trouve pétillante, je trouve qu'elle joue bien. Je trouve qu'elle est assez rayonnante. Je l'apprécie bien.
On a vu un de ses films dernièrement, je sais plus c'était lequel en fait. C'était pas mal, avec Bedeau justement.
Elle était meilleure que lui.
Je pense que c'est sa femme.
Qui aime bien, châtie bien.
Le fils à Guy.
Je l'ai rencontré en dehors et j'ai été agréablement surprise par un garçon charmant, attentif, alors que j'étais un peu inquiète de me retrouver à côté de lui. Et je pensais que j'allais faire les frais de son humour un peu caustique.
Il ressemble à son papa.
Dora Tilly, elle ressemble à quelqu'un que je connais, mais c'est pas elle.
Ben justement, la vraie Doria Tillier est là. On en est très heureux. Très heureux. Très non, pas très heureux, parce que très heureux, finalement, sans le sergent Garcia, ça n'a pas de sens. Une chose intéressante entendue dans ce micro trop trash, et qui était d'ailleurs assez light en termes de trash, hein, c'est votre dualité, Nicolas Bedos. Beaucoup ont encore l'image de vous, époque chronique persiflante, ton cassant. Cette femme avait peur de se retrouver à côté de vous. Ma question est simple. À l'époque de ces fameuses chroniques, vous étiez effectivement quelqu'un de cassant dans la vie et vous avez changé, ou bien vous avez toujours été en fait un gentil garçon, c'était juste un personnage à l'époque?
Non, c'était pareil, sauf que j'ai un peu oublié parfois de me présenter avant, quoi. C'est-à-dire que je suis allé en pensant que le public, les gens qui étaient devant leur télé, ils savaient tout ce que savaient mes amis, mes intimes, et c'était pas vrai, ils savaient pas. Mais donc du coup, il y en a qui n'ont pas aimé ça du tout.
Mais quelque part, c'est ça aussi qui a fait votre succès, ce côté justement d'arriver avec un ton tranchant comme ça, d'y aller, d'oser des choses que peut-être d'autres se permettaient pas.
Je me suis beaucoup amusé, je me suis vachement excité, et puis j'ai un truc, c'est que j'ai tendance à plus faire les choses par rapport à des gens qui me comprennent que pour convaincre. J'ai une espèce dans ma tête comme ça de j'ai une idée du public idéal et que je respecte, qui m'amuse, que je peux pas décevoir à travers des choses trop consensuelles. Voilà, et puis j'ai admiré comme vous des gens comme des proches, comme Coluche, comme mon père. J'allais pas aller à la télévision pour raconter mes sentiments positifs pour Doria Tillier.
Justement, transition, Doria Tillier, avant de connaître Nicolas Bedos, vous aviez quelle image de lui ?
Bah, j'en avais pas, puisque je l'ai rencontré alors qu'il n'était pas
connu. Qu'il n'était personne
connu,
c'est donc, vrai oui. Donc, à l'époque où il faisait ses chroniques, vous trouviez que c'était une image qui correspondait à ce qu'il était dans la vie, ou vous lui disiez, là, tu devrais gommer certaines choses, ou...
Je ne me serais pas permis de donner des conseils. Non, moi, je trouvais ça très, très... Je trouvais ça excellent, je trouvais ça drôle, percutant. Non, je...
L'amour.
C'est bon. Non, objectivement, je pense que je ne l'aurais pas connu... Dans la vie, je pense que j'aurais quand même aimé.
En tout cas,
j'étais pas la seule, quand même, j'ai appuyé des gens.
En tout cas, je ne suis pas agacé. Je l'ai été à une époque, je disais, mais vous comprenez rien, bon Dieu, mais comment peut-on me trouver antipathique alors que je suis si douloureux, fragile, sensible, et on voit bien que je m'amuse. Et puis aujourd'hui, franchement, je respecte les gens qui sont passés à côté de cet aspect-là de moi.
Et qui vont vous découvrir dans La Belle Époque, qui sort mercredi. Doria Tillier et Nicolas Bedos sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue, la course folle au titre de chroniqueur du jour entre dans la dernière ligne droite. Entre Anissé Mbida et Jean-Philippe Ballas, la tension est maximale, les tentatives de déstabilisation vont bon train. Anissé tentant d'expliquer à Ballas qu'il ferait mieux de déclarer forfait, sa victoire étant écrite depuis longtemps.
Parce que certains spermatozoïdes sont plus lents que d'autres et donc...
À suivre justement l'entrée en piste du roi Anissé qui nous révélera les dernières avancées, surtout les dernières fonctionnalités de l'intelligence artificielle.
Europe 1, 16h-18h. L'équipée sauvage, 16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous êtes toujours sur Europe 1, l'équipée sauvage continue. 2 heures d'une lutte sans merci entre les meilleurs journalistes d'Europe 1, ou en tout cas ceux qui m'ont été présentés comme tel en juin dernier quand j'ai signé. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil de nos invités d'honneur Doria Tillier et Nicolas Bedos pour la sortie en salle mercredi de La Belle Époque. On continue d'en parler juste après la chronique d'Anissé Mbida, notre expert nouvelle technologie et bodybuilding. Doria, je ne vous demande pas ce que vous pensez d'Anissé, et vous Nicolas?
Si tous les hommes avaient des formes aussi prodigieuses que les vôtres, je virerais sûrement ma cutie.
Oui, on est tous d'accord. Et aujourd'hui, Anissé, vous nous parlez d'intelligence artificielle. Ma question est simple. L'intelligence artificielle a-t-elle fait des progrès depuis qu'on l'a testée dans une précédente émission? On avait demandé à une enceinte connectée de nous dire qui était Eva Rock. Alexa, qui est Eva Rock?
Le baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie dans des villes.
Est-ce que l'intelligence artificielle a fait des progrès, Anissé?
Là, elle a fait pas mal de progrès parce qu'elle va remplacer quelqu'un dont on reproche parfois l'intelligence, mais qui est très utile, c'est l'agent de circulation. Alors, c'est une idée, vous allez voir, on se demande pourquoi personne n'y a pensé avant. Aujourd'hui, quand la circulation se dérègle, qu'est-ce qu'on fait?
On met un agent
qui intervient, on fait plus attention au feu et c'est l'agent qui dit, vous passez, vous attendez. Parfois, il y a même un bon samaritain qui va sortir de sa voiture voiture et dire là, ça, on n'en peut plus, et qui va régler la circulation à la place.
Il n'y a que vous qui faites ça, Lisée. Ah, j'ai jamais rencontré de bon samaritain dans la vie.
Vous savez quand les feux ne marchent pas, quand c'est. Non, ça vous est jamais
arrivé. Non, mais donc, le seul à sortir de notre voiture.
Il y a un type qui sort en hurlant et en insultant tout le monde. Mais
Eh bien, là, l'idée, c'est d'avoir tout le temps un bon samaritain, un agent, donc une intelligence artificielle, qui va gérer la circulation, mais à l'échelle de la ville tout entière. C'est-à-dire qu'on va utiliser des caméras qui vont suivre le flux des piétons, le flux des voitures, et dès qu'elles détectent un ralentissement, et ben pof, elles vont coordonner tous les feux environnement, donc avant l'intersection, après l'intersection, ce qu'il y a après, et tout ça pour fluidifier la circulation.
Mais attendez, c'est de la science-fiction, c'est en cours ou c'est déjà en place quelque part ?
C'est déjà en place, c'est déjà mis en place à Pittsburgh aux États-Unis. Il y a déjà une centaine d'intersections qui ont été connectées, et ils envisagent de dépasser les 200 intersections l'année prochaine. C'est le plus gros déploiement de feux connectés à cette échelle au monde, et il y a déjà des résultats qui sont impressionnants, puisqu'il y a 45% de bouchons en moins, la moitié, hein, c'est impressionnant. Le temps de trajet qui est réduit de 25%, et les gens s'arrêtent beaucoup moins, évidemment, puisque la circulation est beaucoup plus fluide. Comme ils s'arrêtent beaucoup moins, c'est aussi beaucoup moins polluant pour la ville. Il y a pas mal d'initiatives de smart city, vous avez peut-être entendu ces mots-là quelque part. En général, c'est des initiatives un peu vaseuses. Ben là, on en a une qui fonctionne réellement.
Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver en France ?
Oui, parce que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés en France, et cette initiative a même reçu un prix en France. C'est étonnant, hein, pas aux États-Unis, mais en France. Mais vous savez, c'est avant tout un problème de volonté politique, hein, puisque aujourd'hui, la plupart des villes se contentent plutôt de faire la guerre aux automobilistes. Et moi, je me dis que tant qu'il y aura des feux, tant qu'il y aura des routes, eh bien, ce serait quand même une bonne chose de rendre tout ça un petit peu intelligent, parce que, enfin, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça ridicule d'être bloqué au feu alors qu'il n'y a pas de circulation. Le soir, ça arrive très souvent. Moi, je connais des personnes âgées qui n'osent pas traverser la route parce que le feu met trop de temps, passe au rouge trop vite. Et donc, ils ont peur de rester coincés au milieu. Il y a des enfants aujourd'hui qui se mettent à courir parce qu'ils veulent rattraper leurs copains, etc. Eh bien, si on mettait un petit peu d'intelligence dans tout ça, eh bien, on pourrait s'arranger pour que tout le monde circule en sécurité. On pourrait même donner la priorité aux piétons, la priorité aux vélos, sans embêter les voitures. Et ça, je trouve ça très, très bien de rajouter un petit peu d'intelligence au feu.
Tout ça va être compatible avec les voitures autonomes ?
Non, bah, les voitures autonomes, c'est pas de mal avec, elles arriveront.
Et moi, je pense qu'au départ, il y a déjà des tests en Californie.
Oui, des tests, mais je pense que ce sera d'abord des bus autonomes qui vont arriver, des moyens de transport en commun autonomes, qui eux, bah, ça vaut le coup de leur donner une voie prioritaire et d'avoir un feu spécial. Mais pour faire ça, il faut avoir une vision un peu plus globale et pas simplement s'arrêter sur l'intersection elle-même.
Compatible avec les trottinettes ou pas, Anissa Binda ?
Arrêtez avec vos trottinettes, Eva. Votre chronique, Anissa, aura-t-elle intéressé nos invités ? Réponse juste avant 18h. Anissa, une dernière info pour remporter le point.
Dans Koh-Lanta, ils buvaient leur pisse.
Oh, merci. Nous sommes toujours en compagnie de Doria Tillier et Nicolas Bedos pour la sortie mercredi de son dernier film La Belle Époque. Mais ma chère Doria, oublions un instant Nicolas. Faisons abstraction de sa présence pour imaginer l'espace d'un instant la vie que nous aurions eue tous les deux s'il n'était pas là. Une vie en forme de conte de fées. 10 ans de mariage, pédalo sur le lac Léman l'été, raclette à Megève l'hiver. Et chaque soir dans notre T3 de Bagnolet, après nos journées de travail respectives, on n'aurait eu qu'une hâte, se retrouver.
Et puis de baiser.
Allons, Doria, 10 ans de mariage, on n'aurait eu qu'une hâte, regarder Netflix, comme tout le monde. Mais quoi regarder sur Netflix ? Eva Rock nous concocte de notre plateau télé juste après Billie Holiday, The Man I Love dans La Belle Époque mercredi, et sur Europe 1 tout de suite. The Man I Love, c'était Billie Holiday sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'un combat épique entre les meilleurs journalistes de la rédaction qui s'affrontent avec un mélange de cruauté et de drôlerie, comme si Game of Thrones rencontrait la soupe aux choux. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil de nos invités d'honneur, eux aussi adeptes du mélange des genres, puisque le film qu'il réalise et dans lequel elle joue tient autant de The Game pour le scénario que d'Amélie Poulain pour la poésie. Nicolas Bedos et Doria Tillier nous accompagnent jusqu'à 18h. Je viens de faire une comparaison qui vous convient ou qui ne vous convient pas, Nicolas Bedos ?
Oh si, tout ce qui mélange un peu les genres dans ce paysage cinématographique français un peu snob, tout ce qui mélange les genres, ça me va.
Doria, pour le premier film de Nicolas, vous aviez été nommée directement dans la catégorie meilleure actrice, sans passer par la case meilleur espoir féminin. Mmh. Est-ce que vous préparez déjà votre discours pour février ? Cette fois, c'est la bonne.
Oscars, il veut dire. Hein.
Mais je dois dire que je n'avais pas préparé de discours pour les Césars, puisque j'étais sûre de ne pas l'avoir. Là, Non, bien sûr. C'est un homme qui répond hyper premier degré.
La moitié de discours, quand même.
Je suis, oh là là, vraiment, quel bouffon. Oh là là, mais fais une blague, Doria. Réponds pas, premier degré, quand on te demande si tu prépares ton discours pour les Césars. Enfin. Eh bien, oui. Oui, j'ai préparé. Je vais d'ailleurs vous le faire.
En exclusivité, on peut mettre la musique, d'ailleurs. Merci. Nicolas Bedos, dans une interview, vous dites « J'ai une peur profonde et anxiogène qu'on ne m'aime plus, pas seulement un moment ou selon certaines circonstances, mais pour toujours, pour toute la vie. Cette angoisse, c'est une angoisse sur le plan personnel ou sur le plan professionnel ?
De tout, 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 mais je pense que je ne suis pas le seul. Je fais des films un peu inquiets, qui ont l'amour inquiet, et on en est tous un peu là. En tout cas, voilà, moi, les gens que je rencontre, il y a des gens équilibrés, heureux, qui m'énervent d'ailleurs, mais quand même, la plupart des gens qu'on rencontre, ils s'interrogent, elles s'interrogent, ils s'interrogent, voilà. Et on a besoin d'être aimés quand même.
Regardez pas Eva quand vous dites ça parce qu'elle est capable de fondre en larmes après 7 ans de célibat non désiré. Je peux vous dire que l'émission peut déraper et sombrer dans quelque chose de très triste. Les amis, on va parler tout à l'heure du prochain volet de OSS 117.
Et c'est vrai
en plus. Le format série, les amis, vous intéresse-t-il? Nicolas Bedos, Doria Tilly, vous êtes très série le soir sous la couette ou pas du tout?
Oui.
Ouais.
Oui, c'est Marie White en studio.
Mais je suis malade, alors du coup, c'est la voix.
C'est la voix de Marie White.
J'ai un peu la voix de mon père et un peu la voix d'Enrico Macias. Enfin, c'est...
Très beau mélange, Doria.
Bah, moi, j'adore les séries, mais il y en a tellement que j'ai du mal à en découvrir de nouvelles. En fait, je remate en boucle les mêmes. Mais
Doria,
déjà...
invitée parfaite, c'est la transition parfaite. Trop de séries tuent la série.
Ah, c'est vrai.
Et oui, on perd désormais, les amis, 17 minutes par jour à s'engueuler avec son conjoint pour choisir ce qu'on va regarder sur Netflix.
Oui, oui, oui.
Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde ce
oui,
soir?
Oui, alors je risque de vous décevoir parce que j'ai pas choisi une série aujourd'hui.
Ah, mais vous avez le droit.
Parce que j'ai pensé à vous, j'ai pensé au film À la belle époque et je vous propose une séance de rattrapage. Samedi soir, France 2 diffusait un numéro inédit de Taratata. C'est une émission qui était enregistrée depuis les Zénith de Lille avec un premier titre.
Attendez, lancé... Doria est déjà.
Bah, merci du conseil.
Hein. Super conseil.
Est-ce que vous l'avez vu, Doria?
Non.
Alors, pour regarder un vieux truc qui s'est passé en 93 sur
France 2. Et voilà, vous allez comprendre pourquoi. Exactement. Premier titre lancé par Nagui, c'est une collégiale, comme on dit. Tendez l'oreille et dites-moi quelle voix vous reconnaissez. Oui.
Gilles Montagné.
Non, Mathieu. Non, vous l'avez cité, Alain Souchon, effectivement.
Il est revenu pour l'occasion. Il est fort, Nagui. Hein. Quand il est convaincant.
Il peut arriver.
Il y a aussi Laurent Voulzy, Michel Jonas et Mathieu Chédid.
Oui, voilà. J'ai regardé un peu l'émission, donc
exactement.
J'ai pas de mérite.
Hein. Nicolas Bedos, vous avez soigné la bande originale de votre film, une BO confiée à Anne-Sophie. Alors, j'ai peur de mal prononcer son nom de famille. Versnayen, c'est comme ça qu'on dit, qui est violoniste et qui avait déjà travaillé avec vous pour Monsieur et Madame Adelman. Et comme dans Taratata, dans votre film, on se surprend à fredonner J'ai 10 ans d'Alain Souchon, parce que les titres de Souchon, comme ceux de Sanson ou encore de M, font partie quand même des BO de notre
comme
vie.
Comme ceux de Sanson ?
De Sanson.
De Sanson.
De Sanson. Une chanson de Sanson. Vous avez vu, j'arrive à le dire.
N'essayez pas de la piéger, Nicolas, elle se piège toute seule.
Elle n'a pas besoin. Voilà. C'est sur France.tv. C'est sur France.tv et c'est gratuit.
France.tv,
c'est gratuit. Et pour les séries, je vais vous faire un petit medley rien que pour vous de conseils.
Et puis nos auditeurs, en revanche, pour les séries, ils se débrouillent.
Merci Eva. Aujourd'hui, ne m'embêtez pas. Voilà, je vous en donne tous les jours.
Minutes de
on
gagner.
Peut faire une exception.
C'était Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, mercredi en salle, Nicolas Bedos et Doria Tillier vous ramènent en 74 dans La Belle Époque. Mais pourquoi attendre mercredi? Dans un instant, Jean-Philippe Ballas vous fait revivre 1974 en musique. Beaucoup de tubes ont marqué cette année-là. Beaucoup de tubes qu'on retrouve dans le film de Nicolas Bedos. Même si en tant que mélomane, je trouve dommage que vous ayez fait l'impasse sur...
Oui, Jérôme, c'est moi.
74. Et encore plus grave...
Seigneur Météo.
74, à tout de suite pour une chronique garantie 100% sans Carlos.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2h en compagnie de Nicolas Bedos et Doria Tillier pour fêter la sortie mercredi de La Belle Époque, film extrêmement émouvant où Daniel Auteuil décide de repartir en 1974, le jour de sa rencontre avec celle qui va devenir sa femme, incarnée par la sublime Fanny Ardant. Et justement, un homme a décidé de repartir lui aussi en 1974.
Mal aimé.
Avec seulement 22 points en 14 participations, on peut parler, oui, de mal aimé. Cela dit, si Jean-Philippe Ballas doit rebondir un jour, c'est aujourd'hui, car parmi nous, c'est le seul qui a connu l'année 74.
C'est vrai. Je t'ai montré mon selfie avec Pompidou.
Oui, déjà 4 fois. Alors Jean-Philippe, racontez-nous, c'était comment 1974?
Vous n'êtes pas seul, Jean-Philippe, vous n'êtes pas seul.
Ça commence par un cri.
Il portait des costards blancs, des casquettes blanches et ça s'appelait Sugar Baby Love.
Ah ça, j'aurais mis ça dans les années 60, moi.
Hein, les Rubettes, qui s'appelaient, groupe britannique dont, je le confesse, j'avais tous les 45 tours. Tandis que mes grands frères, eux, se la jouaient un peu plus chic, un peu plus pointu. Et ouais, en 74, Clapton reprend à sa sauce ce titre reggae d'un certain Bob Marley. Mais bon, aux États-Unis, cette année-là, le vrai tube est une surprise, y compris jusque dans mon manche disque. Qui se souvient aujourd'hui de Carl Douglas ?
Ah bah si, on s'en souvient.
Inaltérable, indémodable. Kung Fu Fighting, avec la chorégraphie qui va bien et le bandeau dans les cheveux. Parce que oui, effectivement, je suis le seul autour de cette table à pouvoir témoigner, à pouvoir vous dire comment c'était en 74. Je n'avais pas accès d'ailleurs à la platine familiale parce que je niquais le saphir à chaque fois. Mais bon, chez nous en France, ça donnait quoi ? Bah, on se posait plein de questions.
Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Oh, bien résilu !
Pierre Vassili himself. Alors peut-être à l'époque part-il de ce type juste à côté de lui, un type un peu étrange qui n'a pas encore de portable à l'époque, mais un bon vieux téléphone à cadran.
Allô ?
Ah, c'est 74. Écoute, maman est près de toi.
La version française est presque pire que l'espagnol.
C'est quelqu'un pour toi.
Et ça manque dans la BO de La Belle Époque. Hein. Ça, un petit Claude François, Nicolas, ça rajoutait du panache dans le film, je trouve.
En tout cas, je constate qu'en 74, on se cherche avec ou sans téléphone d'ailleurs.
Gigi, c'est toi là-bas dans le noir ?
Elle est dense, hein, cette année 74.
C'est incroyable, toutes les chansons sont de 74.
Et oui, et pendant ce temps, à l'Eurovision, un petit groupe suédois ne sait pas encore que ces chansons donneront un jour comédie musicale à Broadway et film karaoké. Et oui, ça c'est ABBA, vainqueur de l'Eurovision en 74, mais ma préférée de cette année-là, je l'ai découverte bien plus tard en grandissant, en devenant un petit peu rebelle. C'était le grand David Bowie.
Il y en avait vraiment pour tous les goûts, hein, en 74.
J'ai l'impression que le son, c'est un peu uniformisé aujourd'hui, non ? Ça où je fais vieille icône en disant ça.
Vous faites vieille icône, parce que si vous écoutez du rap, ça va être différent. Non, mais
ouais,
ça va être, disait, il y a tous les genres musicaux existent encore.
Mais vous savez, vous connaissez mes goûts musicaux. Moi, je suis bloqué aux années 60.
C'est vrai.
Max,
en tout cas, c'était une année très riche, 74, on l'a entendu en musique. Pourquoi vous avez choisi, Nicolas Bedos, l'année 74 ? Il y a une raison personnelle, affective pour cette
date ? C'était une année très riche en musique. Non, parce que c'était une année très riche en tout. Parce que économiquement, c'était pas. Parce que comme le film, quand même, repose sur des choses de l'ordre des relations sentimentales, humaines et tout ça. Je ne voulais pas non plus commettre l'insolence de faire parler d'amour dans un contexte économique ou politique trop grave. Et donc c'est vrai que c'est une année, peut-être pas pour tout le monde, mais disons qui n'est pas trop agressive. Voilà. Et puis c'est le début d'un féminisme à la fois joyeux et très partagé, très militant. Il y a plein de choses très gaies dans ces années-là.
Quand on voit ce film, on a envie d'être dans cette époque-là. Enfin, je me dis, j'aurais aimé être jeune dans cette époque-là. Doria Tillet, c'est quelque chose que vous avez ressenti en tournant les scènes du film ou pas du tout ?
Oui, complètement. Après, je pense que j'aurais tourné une scène qui se passe dans les années 20 ou une scène qui se passe
rue du Charme aussi.
Aujourd'hui sur la Lune. Ça aurait... Non, mais je veux dire,
ça va coûter cher le prochain film, Nicolas. Hein, sur la
non,
Lune.
Mais tout ce qui nous sort de ce qu'on connaît, je pense, nous fait fantasmer, quoi.
Ah ouais, le passé est un pays. Et puis, comme le dit Fanny Ardant dans le film, elle dit à un moment donné, c'était pas les plus belles années qui soient. J'avais l'impression d'habiter dans un cendrier géant. On pouvait se faire violer en toute impunité. C'était la croix et la bannière pour se faire avorter. Enfin, elle dit beaucoup de choses sur cette époque.
Ce qui empêche le film d'être taxé de nostalgique,
ce qui n'est pas du tout. Je pense que toute époque est nostalgique d'une époque précédente.
Eva ?
Est-ce qu'il est vrai que vous aviez un piano sur le tournage, où vous mettez régulièrement et où vous jouez, et vous avez notamment construit la BO ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai mis un piano dans le décor, en fait, donc il existe dans le décor naturel, enfin dans le décor du film. Et puis ça me permettait, parce qu'en plus, moi, j'aime bien me... déconnecter un peu le midi. Donc il y a des thèmes que j'ai trouvés, là, au milieu des assistants, des chefs machinaux et tout ça, et même parfois des acteurs qui venaient m'écouter. Il y a des thèmes que j'ai trouvés qui sont dans le film.
Doria Tillier, est-ce qu'il y a un talent que Nicolas Bedos n'a pas ? Si en plus il compose les musiques du film sur le plateau, en parallèle ?
Attendez là, laissez-moi un peu de temps.
C'est dur, hein ? C'est dur de trouver. La Belle Époque sort en salle mercredi. Nicolas Bedos et Doria Tillier passent l'après-midi sur Europe 1. À suivre, tout se passe bien. Quelqu'un veut un petit café, Anissé ?
Non, mais oui. de la beuh.
Non, alors bien. Alors à suivre, je vous connais, vous êtes sympathique, mais vous êtes complètement à l'ouest. Vous rentrez chez vous et vous avez encore totalement oublié de penser à une recette pour ce soir. Heureusement, Delice in Extremis arrive, la recette de dernière minute qui vous sauve la mise.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, 2 heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 et apprendre à mieux connaître un ou des invités vedettes continue. Parfois, on est surpris avec les invités. Jeudi dernier, par exemple, l'auteur de thrillers glaçants et macabres, Maxime Chatham, j'imaginais un type assez sombre, assez taiseux. Bah, en fait, pas du tout, à tel point que j'ai eu du mal à en croire mes oreilles.
Je vous emmène ce matin pour une terrifiante balade. Vous êtes en forêt, il fait nuit noire, et tout à coup, des hordes de zombies qui vous tombent dessus et...
Ouais, enfin, j'ai l'impression que c'est un chabitorifique en fait.
C'est quoi ?
Un chabitorifique ?
J'ai cru que j'avais mal entendu, mais oui !
Oh bah écoutez, je m'adapte, hein.
Aujourd'hui, pas de chabit au programme, simplement un très beau film, le vôtre, Nicolas Bedos, avec Doria Tillier, La Belle Époque, sort mercredi. On a assez encensé le film, maintenant on va parler d'un autre film, celui qui arrive. Alors là, dans le...
là, Nicolas Bedos, oui, là, vous allez dans, avoir dans une pression de Mathieu Noël.
Oui, mais surtout dans l'échelle de la jalousie que je nourris David Nicolas, c'est-à-dire s'il voulait m'asséner le coup de grâce, c'est-à-dire que c'est le jour où j'ai appris qu'il allait réaliser le troisième OSS. Alors,
mais
mon salaud.
Mais tu sais, j'ai construit ma carrière en fonction
oui,
de...
Oui, j'ai bien l'impression, tu as vu que c'est fan d'OSS, et j'ai dit, tiens, je vais lui mettre un petit coup dans la nuque.
Je suis comme ça en réunion et je fais, oh ouais, ça va vraiment le faire.
Et je sens, en tout cas, c'est réussi. C'est pleinement réussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment vous êtes retrouvé aux manettes du troisième OSS, le film que tout le monde voulait réaliser, j'imagine ?
Il y a eu un appel d'offres.
Il y avait Twig,
on était tous là. Quand je dis tous, c'est vraiment, il y avait Cadmerad, il y avait tout le monde. Je me souviens, j'ai marché à un moment donné sur Mathieu Bourboulon. Et puis finalement, voilà, on a tiré la courte paille. Puis c'est moi qui ai, voilà. Ça a été une envie commune, mais je parle à leur place de l'acteur principal et des producteurs, ainsi que le scénariste Jean-François Alain, qui se sont dit peut-être que je pouvais être sensible à cet humour-là, et puis aussi à cette ambition esthétique-là. Voilà, parce que c'est des vrais beaux films de cinéma, OSS 117, les deux premiers de Michel Hazanavicius. Et donc moi, voilà, je sais pas, vous avez dû remarquer que j'aime bien la photographie.
Ah oui, mais quand je disais que j'étais jaloux, c'est un très bon choix. Je suis juste jaloux personnellement. C'est un très bon choix,
oui,
Nicolas Bedos,
pour
réaliser ce film. Alerte rouge en Afrique noire, c'est le titre définitif, c'est bon, c'est ça ?
Oui.
C'est bien parti. Vous en êtes à quel stade de la production ? Pour les fans, vous savez, les fans sont très impatients.
On est à la fin de la prépa.
Ouais.
Je vais tourner dans 2 semaines. Et c'est intensif, c'est passionné, c'est drôle. Pierre Ninet et Jean sont réjouissants à regarder jouer ensemble. Déjà, on a fait des lectures, on essaie des costumes, on s'amuse comme des gosses.
Et est-ce que dans l'esprit, vous allez aller aussi loin que les premiers ? Parce que je me souviens qu'il y a eu un moment où je crois d'ailleurs, je ne sais pas si c'était bien relayé par la presse, mais Jean Dujardin disait que c'était compliqué de refaire un humour aussi... évidemment, on se moque du racisme et tout ça, mais il y a quand même des répliques qui sont assez chocs. Et on était dans un monde un peu trop politiquement correct, peut-être pour le 3. À une époque, c'était ce qui se disait. Vous y allez à fond.
Ah non, à fond. On ne se dit pas, ah allez, il faut choquer tout le monde là sur cette
mais
réplique.
Mais on ne se bride pas.
On se bride pas. Non, surtout pas, parce que là, pour le coup, ça serait une forme de trahison de l'ADN des premiers OSS. En tout cas, ça a été moi. Et puis, j'ai travaillé sur l'adaptation avec Jean-François pendant des mois, tout en respectant totalement l'absurdité, la folie, le charme de ces dialogues. Mais j'ai essayé de mettre un tout petit peu de choses personnelles également.
Eva ?
Est-ce qu'il y aura une chanson d'Alain Souchon ?
Ça, c'est peu probable.
Désolé. Doria, vous jouez pas dans
Par
le prochain OSS ?
C'est une chanson de quelqu'un qui vous surprendra qui est plus en rapport.
Dario Moreno.
Non, qui est plus en rapport. Vous pourriez trouver si vous réfléchissiez 2 secondes. Une chanson de quelqu'un qui est plus en rapport
Michel
avec.
Michel Sardou ? Michel
c'est
Sardou ?
C'est intéressant.
Ah, ça pourrait être pas mal. Doria, vous jouez dans OSS ?
Non, malheureusement.
Comment ça ? On peut encore négocier.
Non, je crois que c'est trop tard là.
J'ai lu qu'en janvier, vous allez démarrer la réalisation de votre premier court-métrage.
Ouais.
Ça parle de quoi ?
En fait, je fais ça dans le cadre d'un truc qui s'appelle Talent Cannes à Dami. C'est la Dami qui fait une collection de courts-métrages pour le Festival de Cannes. Donc, ils nous donnent des thèmes. Et le thème, cette année, c'est le lieu de tournage. Ils ont fait un partenariat avec l'île de la Réunion.
Voilà. Sympa comme tournage.
Ouais, je suis tombée la bonne année l'an dernier, j'ai tourné en Belgique.
On salue nos amis belges qui nous écoutent.
Non mais j'adore la Belgique en plus. Mais bon, c'est sûr que c'est plus excitant d'aller tourner dans les paysages différents. Et voilà, c'est une comédie. Moi, c'est l'histoire d'une équipe de télé qui va là-bas pour faire un petit reportage sur un truc qui s'appelle La Diagonale des Fous.
Oui. La course magnifique.
Ah, vous connaissez
Eva. C'est la course qui traverse tous les grands cirques de La Réunion.
Rassurez-nous, Nicolas Bedos ne joue pas un coureur de fond dans cette.
Ah, écoutez, tout est possible. On ne sait pas,
tout est possible avec des trucages alors.
Oui, ben, je peux. On n'a pas le droit de tacler les invités.
Ah, vas-y, Nicolas. La Belle Époque sort mercredi en salle. Doria Tillier et Nicolas Bedos sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, justement, Nicolas, c'est une de vos passions dans la vie.
Me regarder dans la glace.
Non, enfin aussi, mais non, là je pensais à votre passion pour la gastronomie. Qu'est-ce qu'on mange ce soir est la question fatidique. Qui vous attend quand vous passerez le seuil de chez vous tout à l'heure? Alors, afin de ne pas balbutier un pathétique, oh, je ne sais pas, il reste une poêlée sarladaise picard dans le congèle, réagissez. Écoutez Delis in Extremis, votre recette dernière minute pour remonter dans l'estime de vos proches. Ça sera juste après un immense tube de 1974 dont vous n'avez pas parlé, Jean-Philippe Ballas. Don't let the sun go down on me, Elton John sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures au service de votre cerveau, de vos zygomatiques, mais aussi, quand vient l'heure de l'apéro, de vos papilles. Avec un être d'une délicatesse rare. Je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage de Berrurier dans San Antonio. C'est un peu son incarnation belge. Olivier Pouls, vous connaissez Doria Tillier?
Ouais, mais tu peux déjà la rapprocher d'ici. Parce que j'en mangerais bien.
Oui, bon, alors, non, rassurez-vous, heureusement, il est en duplex aujourd'hui, Doria. Bonjour, Olivier Pouls.
Bonjour, Mathieu. Bonjour, toute l'équipe. Bonjour, Doria Tillier. Bonjour, Nicolas Bedos. Nicolas, d'ailleurs, petit clin d'œil, parce qu'au début, j'avais pensé faire une simple petite souplette, voilà, pour se remettre un invité de chargé. Mais du coup, j'ai décidé un truc un peu plus conséquent.
Ah, quoi donc?
Bah, je lui propose de faire des country potatoes, vous savez, ces pommes de terre cuites, alors non pas à la graisse, non pas dans une friteuse, mais au four, et je vais vous proposer justement une version, on va dire, assez légère de la pomme de terre, si l'on peut dire.
Ça existe. Alors, c'est quoi votre interprétation légère de la pomme de terre, Poult?
Vous allez voir, c'est vraiment une recette d'une facilité déconcertante. Il y a un petit peu d'esprit TCPC, là, vous voyez ce que je veux dire?
Te casse pas le cul. C'était votre recette dans une autre émission, ouais. Les auditeurs ne s'en souviennent plus. mais on peut la relancer si vous voulez.
Ah bah écoutez, avec grand plaisir. Donc l'idée de ces pommes de terre que vous allez faire ce soir, mon cher Nicolas Bedos, j'en suis certain, c'est évidemment de vous procurer des pommes de terre, mais des pommes de terre à chair ferme. Je vous recommande particulièrement la rate qu'on trouve en cette saison. Vous prenez des rates de belle taille. Et l'idée, c'est de les cuire, bien évidemment, avec un minimum de matière grasse. Et donc, comment on va procéder? C'est très simple. Donc, ces belles rates, vous allez les couper suivant leur taille en 2 ou en 4. On garde la peau. On la lave, bien évidemment, avant, mais on garde la peau. D'abord, parce que c'est bon, la peau de pomme de terre. C'est là-dedans que se trouvent toutes les bonnes vitamines. Et en plus, ça va donner un côté un peu rustique que je trouve assez sympathique. Donc ces pommes de terre, on va les mettre dans un sachet en plastique et on va juste verser dedans l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose pour 2 ou 3 personnes. Hein, donc ça dépend évidemment du nombre de pommes de terre. Mais enfin, 3 cuillères à soupe d'huile pour 2 personnes, ça suffit largement. Et ensuite, on va, dans ce sac en plastique, également mettre quelques petites herbes pour aromatiser. Alors, soit du thym, ou soit, vous savez, vous pouvez acheter des mélanges d'épices, type un mélange mexicain, je trouve ça assez sympathique. Et l'idée, c'est de bien secouer tout ça, ce qui va permettre d'enrober de manière égale toutes les pommes de terre. Donc, vous prenez le sac, vous le fermez, évidemment, et vous secouez vigoureusement de manière à ce qu'elles s'enrobent et d'huile et de ce petit mélange d'épices. Et puis, c'est très simple, une feuille de papier sulfurisé sur une plaque qui va au four. On les dispose en leur laissant un petit peu d'espace pour ne pas qu'elles se collent entre elles et qu'elles cuisent de manière harmonieuse. Et donc, vous allez poser ça dans un four assez chaud, à 200 degrés pendant une demi-heure, 40 minutes, suivant la taille de vos pommes de terre, et en les retournant de temps en temps. C'est aussi simple que ça. Vous avez des pommes de terre qui seront croustillantes, qui seront moelleuses à l'intérieur, finement aromatisées. Vous les salez uniquement à la fin, parce que si vous les salez au début, les pommes de terre vont ramollir. Donc, au moment de servir, un petit peu de gros sel par-dessus, et puis ça accompagne, par exemple, je sais pas, un petit blanc de poulet que vous aurez fait parce que bah, vous vous dites, c'est lundi, on ne va pas trop charger. Mais c'est extrêmement simple. Et vous allez voir que les pommes de terre en soi, c'est tout simplement délicieux et c'est inratable. Et puis quand on sort d'une gastro, c'est parfait pour se remettre
idéal. C'est la recette idéale. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, comme vous, Olivier Poul, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe. Doria Tillier et Nicolas Bedos sont avec nous pour la sortie mercredi de La Belle Époque. Et Nicolas, je ne voudrais pas vous faire de peine, mais hélas, je suis au regret de vous annoncer que l'émission touche à sa fin.
Ah non, de Dieu, de bordel de merde.
Je sais que c'est dur, mais heureusement, il nous reste encore à découvrir qui sera couronné chroniqueur du jour. Nicolas, je vous invite à la grande finale de l'Équipée Sauvage.
Ah, à la bonne heure. Ça sera l'occasion de porter mon smoking en alpaga.
Si vous voulez.
16h, 18h,
l'Équipée Sauvage sur Europe 1.
L'Équipée Sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Les amis, nous y sommes. Une torpeur moite s'abat dans le studio Coluche. L'excitation est à son comble. En quelques secondes, nous saurons qui a été élu chroniqueur du jour. En attendant, les pronostics vont bon train.
Il y a plusieurs méthodes. Et la première méthode, c'est doigt mouillé, hein, tout simplement.
Oui, ben rangez votre doigt, Anissé. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
41%.
41%, c'est énorme.
41% pour Jean-Philippe Ballas, c'est l'année 74.
Pour Jean-Philippe Ballas.
En chanson.
Les gens sont nostalgiques.
Ouais. C'est bien gentil.
2 points pour Jean-Philippe Ballas. Pour ma part, j'attribue mon point, sans hésiter, à Anissé Mbida, car je déteste les embouteillages. En ce sens, je suis assez consensuel, je pense. 1 point pour l'intelligence artificielle qui nous aidera à déjouer les embouteillages. Mais vous le savez ici, le dernier mot revient à nos invités d'honneur, Nicolas Bedos et Doria Tillier. Faites très attention. Mettez-vous d'accord, car votre choix compte triple.
Il faut qu'on se mette d'accord.
Selon vous,
c'est
d'être
plus dur, c'est ça.
Visiblement, ça va être compliqué pour vous. Qui mérite d'être élu chroniqueur du jour?
J'ai trouvé qu'en effet, elle était très bien articulée. Elle était vivante. Elle était en plus musical, ce qui est un peu une facilité, mais
rejoins la masse.
Je voterai Jean-Philippe Ballas.
Je rejoins la masse, et vous, Doria?
Eh ben moi, je voulais dire aussi Jean-Philippe Ballas, mais du coup,
non.
Non, je vais suivre mon idée première.
Et c'est une immense victoire pour Jean-Philippe Ballas qui fait.
C'est le coup de la musique, les amis.
C'est
la musique.
Forcément, il nous parle de musique.
Ça nous fait plaisir d'entendre des trucs.
Ça
nous fait plaisir.
Ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. C'était la 50e journée de l'Équipée Sauvage. La 50e, faut marquer le coup, les gars. Et oui, sur Europe 1, on sait faire la fête. Merci, c'est dans cette ambiance de folie que je remercie nos invités du jour, Doria Tillier et Nicolas Bedos. Courez voir La Belle Époque mercredi sur vos écrans. Merci d'avoir joué le jeu à tous les deux. Et merci Nicolas d'avoir surmonté votre petite difficulté physique du jour. Vous n'étiez pas au mieux de votre forme.
Je n'ai vomi que 4
fois. Et seulement, la poubelle s'en souviendra. Merci également à mes journalistes, Eva Rock, Anne Le Gall, Axel de Tarlé, Anissé Mbida, Jean-Philippe Ballas. L'Équipée Sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. 2 heures de sourire et de rythme avec vous tous. Demain pour la 51e, donc si j'ai bien compris, ce sera Jamy Gourmaud, votre invité. À demain Mathieu, salut à vous.